Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Je vais avoir le plaisir de discuter avec Sophie Bénard afin de présenter son premier livre dont le titre est « Fait record », publié par les éditions des Équateurs au mois d'avril 2024. Sophie Bénard est de formation philosophique, elle est journaliste indépendante et critique littéraire. Bonjour Sophie Bénard.
Bonjour.
Sophie Bénard, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Je crois que c'est surtout ce qui m'a donné envie d'écrire en général, c'est vraiment la proximité que j'ai depuis longtemps avec les textes littéraires. En fait, c'est vraiment la lecture qui m'a donné envie d'écrire. Et ce livre précisément, je pense qu'il vient d'une sorte d'obsession que j'ai depuis aussi loin que je m'en souvienne au sujet du corps et de l'aspect un peu à la fois magique et très intrigant qu'est le fait d'avoir un corps, tout simplement. Et c'était quelque chose que je retrouvais peu, en fait, dans les livres, la question du corps, en tout cas telle que j'avais envie de l'aborder, c'est-à-dire pas dans une sorte de nécessaire morceau du soi, ou pas comme un véhicule, ou voilà, comme quelque chose de plus que ça. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie de me confronter un peu à ce sujet-là.
C'est vous qui avez choisi le titre?
Non, le titre, il vient de mon éditrice et c'est une excellente idée, je trouve, qu'elle a eue. En fait, pendant longtemps, on pensait l'appeler Du Corps parce que c'était la première chose qui nous était venue. Et puis voilà, c'est ça qu'on avait écrit sur le contrat et on s'est un peu attaché à ce titre-là. Et puis, elle m'a proposé Faire Corps assez tard, en fait, dans la période où j'écrivais. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus, déjà, c'est plus joli. Tout simplement, Du Corps, ça fait un peu non franchouillard. et puis justement, Du Corps, ça donnait un peu un aspect très essai au livre, comme voilà, de l'amitié, etc. Alors que Faire Corps, c'était beaucoup plus polyphonique, c'était plus... On sentait tous les sens différents de l'expression, toutes les voix qu'on pouvait y mettre, donc c'était plus signifiant en fait.
Alors, je n'ai jamais cette pratique, mais aujourd'hui, ensemble, nous allons parler des remerciements que vous adressez. Alors, merci à mes premières lectrices et amies, Alizé, Anna, Jennifer, Laurine, Manon, Mathilde, Suzanne et Hélène. Je ne vous demanderai pas leur appréciation. Merci à Clémence et Manon pour leur amitié, leur soutien sans faille et leur fidélité. Merci à Roland d'avoir répondu à mes questions anatomiques et de me soigner. Merci à mon éditrice Lise
Vera, ouais.
pour sa générosité, sa sensibilité et ses encouragements. Merci à Noël Fiorentino de m'avoir appris la rigueur et l'admiration. Merci à Olivier Campin de m'avoir tourné vers la philosophie. Merci à mes parents, bien sûr, pour tout, et à ma grand-mère et à tous les autres. Qui est Olivier Campin?
Alors, Olivier Campas, c'est un enseignant de philosophie. C'est le premier vrai prof de philo que j'ai eu en prépa et qui a vraiment été la personne déterminante pour moi, mes études de philosophie ensuite.
Ok, vous avez fait philo en Sciences Po ou dans une faculté?
Non, en fait, j'ai fait une prépa et ensuite j'ai continué la philo à l'ENS.
D'accord. Alors ensuite, Lise Vera, qu'est-ce qu'elle vous a apporté celle-ci?
En tant qu'éditrice, bon, déjà, elle a cru à ce projet. Donc, c'est vrai que c'était très précieux, en fait, d'avoir quelqu'un derrière dont c'est le métier et qui était très, très partante, voilà, qui trouvait que c'était une bonne idée, qui avait en plus, je sentais en discutant avec elle qu'on avait des références littéraires assez proches, qu'on était assez littérairement connectés. Et ensuite, c'est vrai dans le travail du texte qu'elle a vraiment eu ce rôle, bon, qui je pense est un rôle d'éditeur ou d'éditrice, mais qui en fait est assez rare. C'est assez rare les éditeurs qui sont présents en fait dans le cœur de l'écriture. Et oui, elle a eu une façon très très efficace de repérer les endroits qui fonctionnaient moins bien, de me pousser à aller plus loin dans les endroits qui lui semblaient plus intéressants, etc. Donc je pense qu'elle a vraiment donné un équilibre au livre et puis surtout au-delà de la possibilité d'être publié, la possibilité d'être correctement édité, quoi.
Et Noël Fiorentino qui vous a appris la rigueur et l'admiration.
Et Noël Fiorentino, ça a été ma prof au lycée, en fait, en première et en terminale. Elle était prof de français et de littérature. Et c'est vraiment quelqu'un qui a. Moi, j'étais pas excellente à l'école. Et je crois que c'est vraiment par elle qu'a commencé en fait, déjà le désir d'être excellente. Parce que je la voyais, elle, si rigoureuse, si passionnée aussi. C'est vraiment une passionnée de littérature. Est très efficace, très rigoureuse, et c'est vrai qu'elle m'a vraiment, puis elle m'a aussi beaucoup encouragée et poussée, mais elle a ce rôle très très important dans mon petit parcours scolaire slash universitaire, quoi.
La réussite tient souvent à des rencontres.
Oui, vraiment.
Et en l'occurrence, là, vous avez eu de belles rencontres.
Oui, c'est ça, c'est deux très jolies rencontres. Et effectivement, ce livre, c'était aussi parce que c'est le premier, parce que donc forcément, ça a une place un peu particulière pour moi. C'était aussi le moyen oui, voilà, de rendre hommage à ces deux personnes qui, dans mon parcours universitaire, ont été vraiment très marquantes et très. Enfin, c'est des gens à qui je pense très souvent, en fait.
Bah, en plus, le livre est beau, vous avez eu tout à fait raison de retenir cette maison d'édition qui produit vraiment de très beaux livres. Et le vôtre est particulièrement beau puisqu'il est cartonné, le papier est de belle qualité, l'impression est aussi d'une belle écriture, la typographie est belle. Moi, j'ai été heureux de le tenir en main.
Oui, c'est vrai que c'est un bel objet. Ouais. Le
Ouais,
travail d'édition, effectivement, est vraiment. J'étais très très contente de l'objet aussi. Je le trouve beau. Je trouve que l'illustration de couverture est vraiment très très belle et qu'elle correspond très bien au livre. Enfin, c'est un. Ouais, il est très beau.
alors, comment avez-vous choisi les différentes parties du livre?
Ça, c'était un peu difficile. Au début, j'étais très inquiète de ne pas avoir justement une sorte de narration de totale, enfin oui, dark narratif avec voilà des éléments perturbateurs, un début, une fin. Et j'en ai parlé justement à mon éditrice qui m'a dit, tu sais, il vaut mieux en fait ne pas en avoir que d'en créer un artificiellement. En fait, visiblement, ce que tu veux faire, c'est rentrer dans des détails d'expérience. Et peut-être que ce serait artificiel en fait de chercher à tout prix à les rassembler. Donc j'ai travaillé comme ça en choisissant d'abord des lieux que j'avais envie d'explorer, qui sont en fait venus assez facilement parce que c'est vrai qu'il y a des choses, des sujets plus centraux et puis peut-être des sujets plus accessoires ou plus minimes. Mais ça, c'est venu assez naturellement. Parce que oui, je sais pas, je me suis laissée. En fait, dès qu'une petite chose m'intéressait, dès que quelque chose me semblait pouvoir être sujet à réflexion, justement autour du corps, de la relation au corps, etc., je me suis dit, bon, allez, ça vaut le coup, on essaye. Et puis, bon, il y a évidemment des sujets où je me rendais compte très vite, au bout de quelques lignes, que c'était pas très intéressant ou qu'il fallait réussir à le tourner autrement. Mais c'est vrai que c'est venu plus par. Tous les endroits qui m'interrogeaient, en fait, où je me disais, là, il y a sûrement quelque chose à creuser parce que il y a un petit mystère, il y a un dialogue qui se fait entre le corps et l'esprit que j'aimerais pouvoir rendre. Et ouais, c'est comme ça que je les ai choisis.
Oui, c'est donc ce qui a conditionné ce style d'écriture avec des descriptions relativement brèves, souvent 2 pages, 3 pages, parfois un peu plus.
Oui, c'est ça, c'est. Oui. En fait, au début, j'avais pas forcément cette forme-là en tête. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte que je voulais faire. À la fois, je voulais pas faire quelque chose de l'ordre du théorique. Et c'est quand même la question. En fait, plus que la question du corps, je crois que c'est la question du rapport qu'on a au corps, intime, du rapport qu'on a avec son propre corps. Et donc, ça passe par des descriptions d'expériences, de vécu corporel. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que même pour s'immerger dedans, en fait, la forme courte est suffisante, justement parce qu'on parle quand même souvent de quelque chose d'assez évident en réalité, et en tout cas de très courant, de très souvent ressenti, et que oui, la forme courte permettait presque plus, en fait, allait rendre une sorte de rythme du corps aussi, c'est-à-dire que le corps, il cesse pas de passer d'un état à un autre, de valser entre les sujets, etc. C'est vraiment les êtres rationnels que nous sommes qui se concentrent très longtemps sur la même chose, qui développent une pensée dans le bon ordre, etc. Et que cette façon fragmentaire d'écrire, elle allait permettre de peut-être de rendre plus réellement compte d'une sorte de flux de pensée corporelle, quoi.
Au tout début de la quatrième de couverture, il est indiqué, au cœur de nos préoccupations esthétiques et médicales, les corps, ces corps que nous nous attachons à parfaire, à modeler et à normaliser. Avez-vous envisagé que la taille de nos corps correspond à ce dont nous avons besoin? Autrement dit, qu'il est le juste contenant de ce que nous sommes?
Ah bah je pense, oui, mais c'est en même temps, c'est une question rigolote parce que il y a à la fois cette façon de, évidemment, et tant mieux, s'identifier à ce qu'on est en tant que corps, individuellement, et en même temps, justement, de se dire, ça revient dans le livre deux, trois fois, de comparer son corps aux autres, et alors même pas forcément dans justement une comparaison esthétique, mais par exemple, là, la narratrice. Elle le dit, elle est petite, elle est plutôt menue. Et en fait, de voir des corps, souvent des corps d'hommes immenses, qui font 40 cm de plus qu'elle, qui pèsent le double de son poids, c'est vrai qu'on se dit, bah, alors, l'expérience du monde de ces gens-là doit être totalement différente.
Bien sûr.
Précisément parce qu'effectivement, il est à la fois juste contenant et à la fois on a souvent tendance à avoir l'impression qu'il nous limite, ou qu'il donne une image de nous qui n'est pas celle que nous, on a de nous, enfin, qu'il est comme un perpétuel décalage, et en même temps, parfois, il est très juste aussi dans ce qu'il communique, justement. Enfin, oui, c'est comme s'il y avait toujours une tension, en fait, entre sa justesse et son absurdité, un petit peu.
Son exécuté.
Oui, c'est ça, ouais.
La lecture de votre livre m'a fait penser au film Je Substance de Coralie Farja, qui a été présenté cette semaine au Festival de Cannes. Je vous en ferai la brève description. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Vous devriez essayer ce nouveau produit, ce Substance. Ça a changé ma vie. Avec ce substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Il suffit de partager le temps, une semaine pour l'une, une semaine pour l'autre, un équilibre parfait de 7 jours. Facile, n'est-ce pas? Si vous respectez ces instructions, qu'est-ce qui pourrait mal tourner?
Oui, c'est vrai qu'il y a dans cette préoccupation effectivement esthétique, voire médicale aussi, parce que la préoccupation médicale, c'est aussi cette préoccupation d'être toujours en meilleure santé, de jamais avoir le moindre désagrément, etc. C'est vrai qu'il y a un peu cette idée de meilleure version de nos propres corps. Et justement, dans le livre, j'avais envie à la fois, évidemment, qu'on sente cette pression au meilleur corps, parce que je pense qu'on l'a tous suffisamment incorporée justement pour la ressentir perpétuellement. Et en même temps, ce qu'on peut aller chercher du côté de ce qu'on appelle imperfection, c'est-à-dire de tomber malade de temps en temps. Je parle évidemment des maladies bénignes, hein, parce que c'est encore une autre question, les maladies lourdes, mais voilà, de tomber malade de temps en temps, de vieillir tout simplement, qui donc va constituer des imperfections esthétiques. Et en fait, je crois de reconstituer une relation au corps qui est plus de l'ordre de la relation presque familiale, j'ai envie de dire, ou alors d'une relation d'un très vieux couple, c'est-à-dire que on connaît les défauts de l'autre, évidemment, on sait que est-ce qu'on a choisi d'être ensemble, on ne sait même plus vraiment, mais en tout cas, on est ensemble, et tous ces défauts sont aussi des marques du temps qui est passé, des expériences qui ont été traversées, de la façon dont le corps se reconstruit aussi sans cesse, dont le corps s'acharne presque plus que ceux qui les habitent à vivre. Et que oui, que dans ces conditions, une nouvelle version serait pas forcément souhaitable, même si bien sûr c'est enfin, bien sûr qu'on aimerait tous avoir un corps de en très bonne santé, très jeune et très beau, mais ça serait plus le nôtre en fait.
C'est ça, encore plus grand, plus musclé. Vous ne parlez pas de tatouage dans votre livre.
Non, c'est vrai que j'en parle pas du tout. Bah, je pense que c'est vraiment par et
Sinon,
ça.
à propos d'un artiste qui est lui tatoué, mais vous parlez pas, sinon, vous ne parlez pas du tatouage.
Ah oui, c'est vrai, oui, j'y pensais même plus. Oui, c'est vrai que j'en parle pas du tout. Bah, je pense que c'est un petit peu par probablement parce que je crois que c'est très difficile d'écrire sur le corps sans écrire plus ou moins sur le sien. Et donc, c'était aussi un choix dans le dans l'écriture que de me dire je pense que j'ai pas les capacités, j'ai peur que ça soit pas juste si je me projette dans des expériences qui sont trop lointaines des miennes. Donc j'ai y a beaucoup de choses qui manquent. Évidemment, on est plongé dans un corps subjectif qui est bon, déjà qui est un corps de femme, qui est un corps de jeune femme, qui est un corps qui n'a pas vécu de grossesse, d'accouchement, qui est enfin bref, qui n'a pas vécu de maladies lourdes. Bon, un corps qui a toutes ces spécificités-là. Et effectivement, il a la spécificité de pas être ni tatoué ni percé. Il n'a pas d'expérience ouais, de ce type-là.
À quel endroit mettez-vous l'âme dans le corps que vous décrivez?
L'âme?
Oui.
Ah bah.
Vous n'en avez pas beaucoup écrit non plus. Non, je vous pose cette question parce que les Égyptiens parlaient de l'âme du cœur, à savoir cet organe qui est le maître du corps, qui permet à chacun des organes de fonctionner indépendamment, mais qui sont cet organe moteur qui n'existe pas. Le corps et l'ensemble des organes ne pourraient pas fonctionner.
Oui, bah, c'est vrai que ça me. En fait, c'est un. Le livre, je pense, repose sur un dualisme, effectivement, entre âme et corps, tout en essayant de les relier le plus intimement possible. Et c'est vrai que où est l'âme? En fait, j'aurais tendance. Je pense évidemment à la glande pinéale de pensée par Descartes, qui est aussi ouais, qui est très dualiste dans sa façon de penser l'esprit et le corps, l'âme et le corps, et donc il localise le lien entre les deux dans un coin du cerveau qu'il appelle glande pinéale. Et ouais, en fait, c'est la première chose qui me viendrait, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose dans le ventre, mais peut-être aussi que c'est déformé par cette idée qu'on a beaucoup maintenant de que l'estomac serait le deuxième cerveau, qu'il y a des neurones dans le ventre, etc. Mais c'est vrai que le ventre réagit tellement vite aux états de l'âme en se contractant, en faisant mal, en voilà, réagit tellement vite que qu'on a un peu l'impression que c'est qu'il y a quelque chose ici quoi. Mais au fond, j'essaye de les penser, y compris dans le livre, de les penser les plus reliés possibles finalement, les plus ouais.
Pour continuer avec les Égyptiens, puis on passera à autre chose tout de suite après. Les Égyptiens embaumaient les défunts la bouche ouverte afin que leur âme puisse s'envoler
Oui.
et rejoindre notre corps.
Ah oui, puis se transposer dans un autre corps, oui. Mais justement, j'ai du mal à imaginer qu'une âme puisse aller dans un autre corps, tellement les deux sont liés et tellement l'un détermine l'autre, en fait. C'est difficile, je trouve, d'imaginer qu'il y ait une âme sans corps, en fait, parce que c'est tellement. On vit tellement, tout ce qu'on vit est tellement déterminé par le corps, ne serait-ce qu'en termes de sensations, etc., que c'est dur d'imaginer une âme, ouais, immatérielle, quoi.
Les premières sensations de l'enfant sont intra-utérines.
Ouais. Oui, donc elles sont même doublement corporelles.
Et donc, pendant toute cette période intra-utérine, le bébé, enfin le fœtus en l'occurrence, bah, entend tout ce qui se passe autour de lui et reçoit toutes les sensations de la maman qui porte cet enfant.
Oui.
Donc c'est peut-être à ce moment-là où l'âme s'incorpore,
Oui, exactement.
mais ça n'est qu'une supposition.
Oui, mais c'est oui, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est enfin, le moment des premières sensations, c'est vraiment le lieu où les deux se lient de manière irrémédiable, en fait, parce que, ouais.
Alors, on va quand même passer à votre livre. Alors, en préparant cette émission, il y a plein de choses à propos du corps, des corps. On parle de corps de ballet, corps de police, corps administratif. Mais il y a plein de corps, corps politique. Et puis, il y a aussi plein de pièces de théâtre ou d'autres ouvrages littéraires qui ont parlé du corps. Et je suis tombé sur une chose qui m'a paru intéressante. C'est un collectif de 15 membres du Parlement, des écrivaines francophones, qui proposent des récits personnels et qui ont notamment écrit Corps de fille et corps de femme. Alors, je ne vous en parlerai pas parce que je ne l'ai pas lu. Je l'ai juste découvert en préparant cette émission. Mais ça me paraît intéressant aussi de savoir ce que toutes ces femmes parlementaires, mais il y a aussi plein d'autres femmes qui ont écrit sur le corps, ce qu'elles ont écrit à propos du corps. Alors, on va parcourir votre livre et je vais l'ouvrir au hasard et vous allez faire raconter ce que vous avez voulu dire. Et je tombe sur dents déciduelles et permanentes. Donc, les dents qui vont tomber, les dents de nez, et puis celles qui vont rester. Qu'est-ce que vous voulez dire à propos de
Ah,
ces dents?
dans le chapitre?
Ouais.
C'était vraiment le. Alors, c'est un chapitre qui est rédigé à la première personne du pluriel, donc au nous. Et en fait, j'ai tout le livre, je fais alterner les pronoms qui s'expriment. Donc, parfois, le je et le je, enfin, c'est le corps qui s'exprime en je. Parfois, c'est la narratrice. Parfois, la narratrice s'adresse directement au corps en disant tu, parfois elle dit lui, etc. Et le nous, justement, c'était un peu l'idée de faire parler ensemble et le corps et la narratrice, tout en maintenant une forme de dualisme quand même, parce qu'il y a aussi un jeu qui est à la fois le corps et la narratrice, où là vraiment, comme si le dualisme était à ce moment-là résolu. Et là, il me semble que c'est peut-être la première fois que c'est au nous dans le livre. Et donc, c'était vraiment cette idée de montrer que dans l'expérience vécue par ce corps des dents, de l'histoire un petit peu dentaire de ce corps-là, il y avait quelque chose qui reliait très fort la narratrice et le corps dans la façon de vivre ces expériences, donc globalement comme des choses assez désagréables, puisqu'évidemment il est question de dentiste et de dents arrachées, etc. Et avec aussi justement de mettre en avant tout le symbolique, par exemple, de la dent arrachée, où ça va au-delà de la douleur, de la gêne, etc. C'est aussi quelque chose de. Il y a une. C'est quand même un bout de corps arraché, quoi. Donc et puis c'est un geste très violent. Et même s'il est évidemment pris en. Enfin, s'il y a anesthésie, etc. Et le geste est symboliquement très violent, très fort. Et donc, de oui, montrer là que la narratrice et le corps se rejoignaient un petit peu pour. Oui, un petit peu dans ces traumatismes, même s'ils sont très très répandus, très quotidiens. Et aussi cette façon de gérer ensemble, c'est-à-dire qu'à la fin du chapitre, justement, il y a cette idée de conscience un petit peu d'avoir des belles dents, des dents solides, voilà, qui font pas de caries, qui sont assez faciles à entretenir. Et en même temps, d'autant plus de la nécessité de les entretenir, justement, comme pour rendre au corps ce qu'il avait offert. Et pour le. Oui, c'est ça. Oui, lui rendre un petit peu ce qu'il avait offert, prendre soin de ce qu'il a donné, quoi.
C'est un joli hommage. Est-ce que vous trouvez raisonnable que l'on impose aux enfants de porter des bagues sur les dents pour les ajuster, les aligner?
Bah, c'est vrai que c'est une grande question. Moi, dans cette question-là, je ne peux pas m'empêcher de penser, et ça apparaît effectivement dans le chapitre. À la dimension sociale de la chose, c'est-à-dire que il y a je retrouverai pas le nom de tête, mais il y a un sociologue récemment qui a écrit un livre là-dessus sur les dents et sur le à quel point c'est une pratique sociale en fait, classe supérieure moyenne de soigner l'alignement des dents et je pense que Est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas. En plus, c'est vrai que c'est des pratiques qui sont souvent douloureuses parce que les dents se déplacent, donc c'est extrêmement douloureux. Et puis, c'est plusieurs années de...
C'est long et pénible.
Oui, voilà, c'est vraiment long et pénible et très cher. Et en même temps, je me dis, moi, je sais que c'est plutôt un... Enfin, dans le chapitre où la narratrice remercie en quelque sorte ses parents d'avoir fait ce travail-là, puisque c'est un travail souvent qu'il faut faire jeune parce que les dents sont encore en train de se former, précisément parce que sinon... des dents très très désordonnées, en fait, maintenant trahiraient une classe sociale basse, et donc serait en fait, comme tout ce qui trahit les classes sociales basses, un handicap en fait pour trouver un travail, pour s'intégrer en fait dans divers milieux. Donc c'est vrai que c'est en fait c'est pas très raisonnable d'un point de vue corporel. Mais socialement, c'est assez, c'est vraiment mettre les chances du côté de l'enfant pour plus tard.
C'est ce que vous appelez uniformiser les corps. Donc on veut que toutes les bouches soient identiques, hein, que les dents soient alignées.
Oui, en quelque sorte, oui. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est pas un... Bon, après, ça doit évidemment dépendre des cas, etc. Mais les dents un petit peu de travers, c'est pas un problème de santé, en fait. C'est pas un... Il n'y a pas de danger, il n'y a pas
Non,
de...
tant que ça n'empêche pas la mastication,
Voilà, exactement.
ça ne crée pas de soucis gastriques. L'autre chapitre que j'ai ouvert est intitulé Corps mort. Et dans la deuxième page, ce n'est pas que l'âme ait survécu au corps, soyons sérieux, c'est encore une autre histoire. Ce corps désormais délesté du poids de la mort, approchant, existe toujours pour nous dans les lieux qu'il a fréquentés. Ce n'est pas au cimetière que nous allons nous approcher de lui, ce n'est pas là que nous l'avons connu. Le pèlerinage se fait dans le grand centre commercial. Que nous avons tant reporté avec elle, accrochée à son banc.
Oui, là, c'était l'idée de... Ouais, justement, cette phrase, ce n'est pas que l'âme ait survécu au corps, c'est un petit peu, oui, le résultat aussi de cette intuition de la difficulté d'imaginer une âme qui serait plus corporelle. Et en même temps, d'essayer de penser le rapport, non seulement le rapport aux morts, à ces morts, en fait, c'est un chapitre qui raconte le rapport de la narratrice à une grand-mère qui est morte, qu'elle aimait beaucoup. Oui, non seulement le rapport aux morts, mais aussi au corps. Et en fait, j'avais le sentiment que se rendre dans des lieux qu'on a connus avec quelqu'un qu'on a aimé, c'est lié au corps de cette personne, en fait. Parce que c'est autre chose que penser à la personne, c'est autre chose que... C'est aller habiter un lieu que ce corps a habité ou que nos deux corps ont habité ensemble. Et donc, oui, c'est assez lié à la question corporelle, même si évidemment le corps n'est plus là.
Dans votre livre, vous ne faites pas de relation entre le corps et la religion.
Oui, non, pas du tout, c'est vrai.
Mais j'y pense au travers de notre discussion à propos de la mort et de l'âme. Il y a de nombreuses années, je faisais un voyage à Bombay. Et en plein centre de Bombay, il y a des tours, je sais pas, 30 mètres de haut. Et devant la tête, il y avait plein d'oiseaux qui étaient en haut de ces tours. Et en fait, les hindous exposent les cadavres afin que les vautours puissent les décharner et que ces ossements ensuite puissent être brûlés.
Oui.
Et donc, il y a dans la religion hindoue, moi je ne suis pas du tout spécialiste de cette religion qui est très très compliquée. Mais c'est quand même surprenant de voir quelle est la relation de ce peuple face à la mort et à l'âme.
Bah oui, j'ai l'impression que c'est un rapport à en tout cas au corps mort, effectivement, qui est très différent des nôtres où nous on cache beaucoup, on maquille, on cache, enfin on s'en tient très très éloigné. Mais je pense que il n'y a pas grand-chose, enfin il n'y a rien effectivement sur le rapport religieux au corps, alors que le corps est quand même une grande question dans les religions, mais probablement parce que de celles que je connais, justement le corps est directement relégué au second plan. Voir est une mauvaise chose, une chose à combattre. Il faut combattre le moindre de ses désirs, le moindre de ses penchants pour se concentrer sur l'âme et la vie éternelle qui est donc une vie sans corps, en fait, qui sera forcément beaucoup plus heureuse et puis beaucoup plus saine et pure. Et c'est vrai que dans la démarche d'écrire ce livre, il y a un peu aussi l'inverse, l'idée de dire, mais il n'y a pas, enfin, ben justement, le corps n'est pas impur et il n'y a pas d'autre réalité, en fait. Enfin, c'est vrai que c'est un constat. En tout cas, le livre part d'une intuition un peu païenne. C'est vraiment l'idée de dire, il n'y a pas d'autre réalité que le corps. Et donc, justement, ne le négligeons pas au profit d'autre chose. Y compris littérairement, ne le négligeons pas au profit des, ouais, je sais pas, des pensées les plus élevées ou des réalités qu'on lui préférerait, puisque en fait il est un peu la seule, il est la... en tout cas il est la base de ces réalités-là, quoi.
Le corps du délit. J'ai attrapé un petit objet, peut-être un tampon périodique et sans applicateur, etc., etc. Et ensuite, vous pratiquez des... Ah non, c'est pas... Non, c'est dans un autre chapitre. Oui, continuons avec les pratiques autour de l'objet que vous découvrez, enfin, que le corps découvre.
Oui, bah là, c'était un peu l'idée. Je pense que c'est les parties les plus... Enfin, des parties qui sont aussi, comment dire, alimentées par une réflexion féministe. Parce que là, je crois, là, ce chapitre-là, c'est le récit d'un corps, donc préadolescent, qui, en fait, découvre son corps sexuellement et qui n'est même pas capable, n'est pas capable de situer ses propres organes. Et ce qui effectivement me semblait à la fois, bon, à la fois un peu amusant à raconter et aussi très signifiant d'un point de vue de ce qu'est bah, le rapport des corps le rapport des femmes à leur corps, à savoir un rapport de très grande ignorance, très largement entretenu par l'école, par le silence qu'il y a autour de leur corps et de leur plaisir après. Et donc oui, c'était aussi un moyen d'illustrer en quelque sorte les conséquences concrètes en fait de cette ignorance-là des corps.
J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une artiste plasticienne dont ce qu'elle produit indiquait notamment que les jeunes filles peuvent pas voir l'intérieur de leur sexe,
Ouais.
alors que les garçons le voient sans difficulté.
Oui, c'est ça. Il y a évidemment déjà ce rapport à intérieur-extérieur qui est très, très, très différent. Mais je crois aussi que les jeunes filles et même plus tard les femmes sont pas du tout encouragées en fait à explorer leur corps parce qu'on le voit bien avec plein d'autres choses. Ce qu'on peut pas voir, on peut parfois le toucher, le sentir. Enfin, en fait, c'est pas un tel obstacle. Et par contre, il y a un obstacle culturel, social, effectivement, sur le. Ouais.
Ouais. Bah, dans cette équipe de plasticiennes marseillaises, l'une d'elles a demandé à des femmes de lui envoyer des menstrues sur un morceau de papier absorbant.
Ah oui, d'accord, oui.
Et elle a réalisé des œuvres absolument remarquables.
Ouais.
En assemblant ces morceaux de papier couverts de menstrues. Et une autre jeune femme, elle avait moulé des vulves qu'elle collait sur les murs.
Ah oui, ouais.
Et donc, c'est vraiment une autre approche du sexe féminin.
Oui, c'est ça. Et puis, je crois que c'est aussi cette volonté, effectivement, qu'ont plusieurs artistes, plusieurs autrices aussi, depuis quelques années, aussi de rendre visible et de rendre visible dans la diversité. Et pas seulement. Enfin, je pense que c'est pas du tout des intentions, un peu, voilà, des bonnes intentions. C'est une vraie réalité de se dire, mais en fait. Puisque les femmes connaissent pas leur corps, elles savent pas non plus à quel point ils sont différents les uns des autres. Et donc et ça c'est aussi des récits qu'on entend beaucoup, des femmes qui disent oh, pendant tant d'années je me suis demandé si c'était normal et où en fait tout était normal. Juste effectivement c'est comme c'est pas représenté, et ben on se retrouve seul face à une réalité du corps qui est parfois, enfin du coup qui a l'air surprenante alors qu'elle est banale en fait.
Oui, puis avec des pratiques que l'on impose, me semble-t-il, de manière assez violente, où on propose aux jeunes filles de s'introduire des tampons, alors qu'il y a plein d'autres moyens de protection.
Oui, c'est ça, c'est un... Oui.
Et là, on est vraiment dans une démarche, peut-être de facilité, ou commerciale, marketing, parce qu'il y a de grandes marques qui ont envie de vendre du produit.
Oui, je pense qu'il y a, ouais, il y a un peu de ça. Puis, enfin, en fait, c'est l'idéal, c'est tout simplement comme pour le reste, de laisser le choix, en fait,
C'est
de
ça.
montrer, de donner les options et évidemment de laisser le choix à la personne qui vit son corps de telle manière à tel moment et qui a envie ou non de telle pratique ou de tel outil ou non, quoi.
Demain, vous allez être parent, peut-être. Comment vous allez apprendre le corps à vos enfants?
Bah, pas sûr de devenir parent, mais si c'est le cas, je pense que je serais très attentive au droit, en fait, à expliquer très tôt et à expliquer de la façon la plus claire possible, même si je pense que c'est jamais suffisamment expliqué, encore plus aux petites filles, voilà, que personne n'a le droit de toucher son corps, que en tout cas qu'on doit toujours lui demander et qu'elle a le droit de dire non, qu'elle a le droit de refuser les baisers, les caresses, qu'elle a le droit de tout refuser. Et puis peut-être, oui, essayer aussi de le plus possible ne pas faire entendre à cet enfant qu'il y a des choses du corps qui sont dégoûtantes, en fait. Parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup cette question-là qui nous coupe de nos rapports au corps. En fait, les moindres fluctuations de nos corps sont dégoûtantes ou gênantes. Voilà, tout ce qui sort de notre corps est dégoûtant. Quand on a le ventre qui gargouille, on a honte, on se dit, oh, j'espère que personne n'a entendu. Enfin, et tout est un peu comme ça, comme si dès que le corps avait le moindre geste qui n'était pas consciemment contrôlé, c'était un sujet de honte. Et c'est un peu dommage parce que je pense que ça coupe un petit peu des relations qu'on peut avoir individuellement avec son propre corps. Oui, de se rendre attentif à l'écouter, à le regarder, à regarder ce qui sort de lui. Oui, juste à vivre avec lui, non pas comme un être qui est dégoûtant, mais juste comme un être qui vit, en fait.
Ben oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que nos corps se sont déshumanisés, dans la mesure où on ne sait plus sentir, on ne sait plus entendre, on ne sait plus se toucher, lorsqu'on se croise dans la rue et si par accident on se bouscule, c'est une pluie d'excuses, alors qu'on vient juste de se rencontrer?
Oui, je pense qu'il y a un peu, mais je crois que ça vient vraiment justement de ces injonctions sociales à cacher en fait le corps, à surtout faire en sorte qu'il soit le plus discret. Il faut surtout qu'il n'y ait aucune odeur. La moindre odeur est tout de suite très désagréable pour les autres. Enfin oui, qu'il n'y ait aucune odeur, qu'il n'y ait aucun bruit qui sorte du corps, qu'il n'y ait aucun, oui, qu'il existe le moins possible en fait. Et à la fois, c'est un réflexe qu'on peut comprendre dans plein de situations où on se dit le corps, c'est aussi la vulnérabilité. Exposer son corps dans ce qu'il a de plus corporel, de moins discipliné, c'est évidemment se rendre vulnérable, bien sûr. Et en même temps, je pense que oui, c'est ça déshumanise un peu dans le sens où ça coupe complètement d'une partie de l'être humain qui est la partie corporelle, en fait.
Ouais, mais ça, de mon point de vue, ça ne justifie pas que la plupart des gens s'aspergent de géranium le matin pour masquer leur propre odeur.
Ben oui, c'est ça, c'est un... Ouais. Mais je pense que c'est la peur d'être jugé, enfin, que son propre corps prenne trop de place, en fait, soit trop présent, justement, dans l'espace des autres.
Va prendre un autre chapitre. Corps jeune. Ah, oh, ça, c'est pas bien. Ça, c'est la bile. C'est le foie qui fait des caprices.
Oui, exact.
Alors, ah, puis vous parlez aussi, loin de nous, l'idée d'humilier qui que ce soit, mais ce fameux chiffre est une invention des médecins du début du XXe siècle qui ont calqué notre cycle menstruel sur le cycle lunaire. Par ailleurs, un cycle lunaire, c'est 29 jours et demi. Allez, racontez-nous. Qu'est-ce qui
Alors
vous est
oui,
arrivé ce jour-là?
Le corps jaune, c'était plus le, c'était l'idée de, parce que corps jaune, c'est un, alors j'ai peur de dire une bêtise parce que les recherches remontent un peu, c'est, je crois que c'est une partie des ovaires ou du col de l'utérus. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé corps jaune. Je crois que c'est dans les ovaires. Et donc oui, c'est un chapitre qui parle des règles avec bah, justement un corps et une narratrice qui, bah, en fait, se rendent compte de la différence entre leur vécu et le vécu supposé par la médecine, à savoir des règles très régulières de 28 jours tout pile, comme si les corps étaient des horloges. Et donc oui, qui voit cette différence, qui s'interroge dessus. Et je pense que oui, là, par exemple, le but de s'attarder comme ça sur les règles, c'était aussi bon, d'essayer de s'en approcher de la manière la plus corporelle possible, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait ressentir au corps, qu'est-ce qui s'y passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, et aussi effectivement un moyen de montrer comment les corps, dans les normes médicales ou genrées aussi qui leur sont attribuées, seront toujours en fait comme déviants de la norme, parce que justement ces normes-là sont complètement... Elle représente une espèce de modèle oui, médical, j'imagine, mais qui en fait est très peu, enfin, ne s'inscrit pas dans le réel, quoi, dans la réalité des corps. Donc c'était un peu, oui, voilà, cette volonté de montrer le gros décalage entre ce que la médecine raconte qu'il se passe dans tous les corps de femmes et ce qui se passe réellement dans un corps de femme, alors qu'il y a encore une fois, là, il y a un corps individuel et justement, toutes les expériences seraient différentes et auraient un rapport différent à ça. Mais oui, de montrer la différence entre la loi universelle donnée par la médecine et la réalité qui est, dans ce cas-là, très, très, très différente.
Ouais. Et les sénateurs qui viennent de refuser un projet de loi qui prévoyait d'accorder des jours de repos aux femmes qui ont des règles particulièrement douloureuses.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas quelque chose qui doit, ben justement, parce qu'en fait, je crois que c'est le corps. Alors, c'est d'autant plus le corps des femmes, parce que bon, ça c'est un trait d'esprit un peu commun dans le féminisme, mais c'est l'idée de dire si c'est les hommes qui étaient réglés, ça serait une bien autre histoire et ce serait géré bien autrement que ça l'est maintenant. Mais effectivement, c'est le corps d'une part, donc premier tabou, c'est le corps des femmes, deuxième tabou. Ça ne peut pas exister dans l'espace public, quoi. C'est vraiment un truc, il faut surtout pas, ouais, il faut surtout pas que ça existe et qu'on le sache, quoi.
Et ce sont les sénateurs qui sont majoritairement des hommes qui ont refusé cette proposition de loi. Et les députés, où il y a aussi une forte majorité masculine, ont fait des expériences, ont porté un appareil qui déclenchait des douleurs particulièrement violentes. Donc, ils leur ont fait comprendre ce que pouvaient être des règles douloureuses.
Ouais. Et ça leur a pas suffi à se dire qu'ils
Les
n'iraient pas
députés
travailler,
étaient
eux, dans
prêts à
ces
adopter cette
conditions.
voie, mais les sénateurs l'ont refusé.
Ouais.
Ah, passer sur le corps, ça c'est une belle expression. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, passer sur le corps, il faut me rappeler lequel c'est.
Bien sûr que non, bien sûr que personne n'a eu à lui passer dessus.
Ah oui.
Quelques millions d'années qu'il ne défend plus son territoire, à la déchirure de ses griffes, à la précision de ses coups ou à la morsure de sa mâchoire. Il se serait battu à mort pour cet endroit. Ça aurait fait moins mal.
Oui, ça c'est un chapitre sur le... Justement, c'était l'idée d'écrire corporellement ce qui se passe dans certaines expériences qu'on ne penserait pas corporelles. Et là, c'est le déménagement, en l'occurrence. Donc, c'est un déménagement un peu traumatique parce que c'est un endroit où la narratrice et le corps, du coup, ont vécu très longtemps et où ils se sont beaucoup plu. Et donc, cet appartement avait ce statut un peu de nid, de presque de... Oui, c'est ça, de nid, je pense que c'est le plus... De tanière, de terrier. Et bon, bah, de s'en retrouver sorti pour plein de raisons excellentes, hein, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le corps. Et d'essayer d'aller explorer un petit peu ce que ça fait au corps, en fait, d'être tout d'un coup comme ça, sorti de son nid, sorti de toutes ses habitudes, justement aussi des lumières, des odeurs qu'il connaît, des murs dans lesquels il a toujours vécu, et puis des... Oui, aussi ce qu'il y laisse. Il y a dans ce chapitre, il y a cette idée de... Ah, mais le nombre de cellules de peau qu'il a laissées par terre, le nombre de cheveux qu'il a laissés tomber dans cet endroit qui est tout, tout imprégné de lui et qui en même temps, tout d'un coup, n'est plus à lui.
Ça nous ramène à la naissance dont on parlait tout à l'heure, dont l'enfant qui naît, qui sort de cet endroit extrêmement confortable et qui se retrouve expulsé
Oui.
dans un univers qui lui est complètement étranger.
Oui, qui... oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu de ça. Mais je pense que la différence, c'est que dans un lieu qu'on habite, une fois né, je veux dire, c'est aussi un lieu qu'on a choisi et qu'on a fait en sorte d'habiter et dans lequel le corps finit par se
On s'est
reconnaître.
approprié.
Voilà, exactement. Et je pense qu'il y a vraiment ce travail qui, justement, est un travail à la fois de l'esprit et du corps, ouais, voilà, de s'approprier un endroit, de finir par y être vraiment chez soi, alors qu'effectivement, on a l'impression qu'avant la naissance, enfin, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais que c'est quand même quelque chose de plus... Enfin, l'habitation de l'utérus, il est vraiment... Bon, évidemment, il n'est pas choisi, mais il se fait presque sans l'intervention de l'enfant, finalement. Et
Oui, c'est presque un accident.
voilà, exactement, oui, c'est ça, c'est presque
Enfin,
un
c'est la rencontre d'un spermatozoïde et d'une ovule.
oui, c'est ça, c'est un... oui, il est presque là par hasard, finalement.
Ouais, c'est presque un accident.
Oui.
Spermatozoïde qui passait par là, une ovule qui était disponible. Bonjour!
Oui, c'est ça, ça. Oui.
Un autre chapitre qui est intitulé Fluide. Ce n'est pas l'une de tes plages, ce n'est même pas ta mère, et pourtant, je te connais, je t'y ai amené comme à chaque fois que le travail ou le hasard m'en rapproche, pulsion ou instinct, tu me supplies. Tu n'es plus tout à coup ce corps docile qui se laisse lacérer la taille dans une ceinture en cuir, etc., etc.
Oui, là, c'est l'expérience de... Donc là, c'est un chapitre où la narratrice dit tu au corps. C'est la narratrice qui parle et elle s'adresse au corps, en fait. Et oui, c'est un peu l'expérience de la... Enfin, le thème revient quand même à plusieurs endroits, la façon dont ce corps et cette narratrice, forcément, mais aime énormément le contact de l'eau et la nage. Et là, effectivement, c'est un endroit où, enfin, un moment où, pour plein de raisons concrètes, d'emploi du temps, de travail, etc., on n'est pas censé avoir le temps de nager et où il y a cette pulsion un peu du corps de, parce que c'est un élément qu'il aime, parce que c'est une pratique qu'il aime ouais, c'est ça, de pousser un peu, de forcer, comme on ressent, j'imagine, devant une grande prairie quand on aime courir ou devant des chevaux quand on aime monter à cheval, ou enfin. Quelle que soit la pratique en fait en elle-même, mais en fait l'idée c'était de décrire un peu cette façon dont parfois on sent notre corps qui trépigne et qui oui qui réclame en fait, qui dit j'ai vraiment j'aime ça en fait, j'ai vraiment envie de faire ça et tant pis si c'est pas le lieu, si c'est pas le moment, si j'ai juste vraiment envie de bah là en l'occurrence d'être dans l'eau, de me baigner.
Et c'est le corps qui réclame.
Bah là, c'était l'impression que je voulais donner, ouais, que c'était vraiment plus... En fait, on sent, je crois, dans ce chapitre, il y a un peu un dialogue entre justement la narratrice qui dit, non mais attends, là, on n'a pas de maillot de bain, faut être à la gare dans tant de temps, etc. Enfin, ça va pas être confortable de la gare avec les cheveux pleins de sel. C'est pas très raisonnable d'aller se baigner, sans que ce soit évidemment non plus une décision très grave, hein. Et le corps qui dit, bah si, allez, tant pis, tout ça, en fait. On a l'occasion de se baigner. Et ça vaut vraiment le coup.
C'est comme le besoin de nicotine, la première cigarette après le café le matin.
Exactement, exactement. Où là, c'est quand même le corps qui réclame
C'est ça.
et la personne dedans qui se dit, bah oui, mais là, c'est pas très, enfin voilà, c'est pas bien de fumer, etc.,
C'est pas
etc.
bien, mais j'en ai besoin. Il me dit qu'il en a besoin.
Exactement,
Donc
exactement.
il va avoir mal à l'estomac et il va me donner mal à la tête.
Exactement.
C'est bien parce qu'on peut ouvrir le livre à n'importe quel moment. n'importe quel endroit, pardon.
Oui, c'est
Politique.
l'avantage de ne pas avoir un arc narratif.
Ouais. Mais c'est pour ça que ce livre m'a vraiment m'a plu. Il s'agit de Follicules pileux. Il m'a offert un cadeau, des cheveux épais, solides, souples, très beaux, des cheveux faciles à porter, longs, faciles à soigner, à démêler, un véritable trophée de féminité.
Oui, là, j'avais très envie de consacrer un vrai long chapitre sur les cheveux, parce qu'en fait, il est assez long ce chapitre. Bon, il mêle les cheveux et la pilosité.
Ouais.
Mais oui, j'avais très envie de ça, parce que je pense que justement, c'est quelque chose, c'est vraiment une partie du corps qui est très, très pleine de normes. Déjà, évidemment, genrée, mais pas que, qui est aussi un. Enfin, les cheveux, c'est très symbolique, en fait. Et j'avais assez envie de chercher ce qu'on pouvait trouver dans le soin de ses cheveux, dans le fait d'aimer ses cheveux, d'aimer les porter. Là, c'est des cheveux longs dont il est question, et donc d'aimer les porter longs, d'aimer les soigner, etc. Et évidemment, de faire le un peu un peu par esprit de contradiction, le rapport directement avec la pilosité, parce que en fait c'est le même follicule, les follicules des poils et des cheveux, et c'est la même matière, c'est de la kératine. Et oui, de dire, bah voilà, des cheveux très beaux, très épais, très bruns, il y a de fortes chances que la pilosité soit exactement la même. Et il y a aussi cette sorte d'absurdité, un petit peu, en fait, de voir que socialement, c'est très valorisé d'avoir des beaux cheveux bien épais, bien bruns. Et par contre, sur la pilosité, c'est évidemment pas du tout valorisé. Donc c'est pareil, il y a un peu ce truc de, mais en fait, le corps, il pouvait pas savoir, il pouvait pas à ce point-là décider ce qui allait être bien valorisé et ce qui allait devoir être à tout prix enlevé.
Et pourtant, notamment les femmes, prennent soin à retirer leurs poils.
Bah oui, pour des raisons de normes sociales.
C'est ça.
Ouais, bah bien sûr, ouais. Parce que le corps féminin est censé être imberbe, est censé en fait ressembler à un corps d'enfant.
Et
C'est
il y a
quand
là
même.
aussi une influence de la religion, où, notamment chez les musulmans, les femmes ne peuvent pas montrer leurs cheveux.
Oui, mais je crois que les poils, c'est une autre.
Ça, c'est autre chose, oui.
Ouais.
Donc, les poils, ça me faisait penser aussi aux femmes à barbe qui étaient exposées dans les foires foraines.
Oui. Oui, c'est ça, parce que l'excès de pilosité chez les femmes va être quelque chose de pathologique,
Ouais.
alors que chez les hommes, il est juste un excès de pilosité, quoi.
Allez, encore un chapitre pour la gourmandise. Oh, Escherichia coli. La cystite est une infection urinaire, tout simplement. Elle se réduit en 90% des cas à la bactérie Escherichia coli, est naturellement présente dans ton tube digestif, c'est-à-dire dans ton côlon.
Oui, là, c'est un.
Après,
Donc,
vous vous amusez en écrivant ce livre, hein?
oui, je me suis beaucoup amusée parce qu'il y avait à la fois l'enjeu de quelques recherches, quand même médicales, anatomiques, etc. Et à la fois cette idée assez naïve, en fait, d'aller plonger dans des lieux spécifiques pour voir ce qu'ils étaient susceptibles de signifier, s'ils signifiaient quelque chose. Donc, c'est vrai que c'était assez agréable à écrire. Et là, c'est ouais, ce chapitre-là en particulier. Donc, ouais, c'est sur la cystite, qui est une infection urinaire bénigne si elle reste. Enfin, si elle est vite traitée,
Si
quoi.
elle soignait.
Voilà, exactement, si elle est soignée. Et oui, de la même façon, c'est un petit peu un essai d'exploration de ce que symboliquement ça signifie. Aussi, parce que, justement, dans le chapitre, je le raconte, c'est une infection qui est très vite associé à la sexualité et à des pratiques. Donc, c'est quand on en a souvent, on nous répète, bah, il faut porter des sous-vêtements comme ci, il faut pas mettre de jeans trop serrés, enfin, en fait, toute une série de choses qu'il faudrait faire qui ne changent pas grand-chose. Et donc, en fait, il y a aussi tout cette idée qu'on nous transmet que finalement, on est un peu responsable de ces infections, puisqu'il y a tout ce nombre de choses qu'il faut cesser de faire à tout prix. Et à la fois qu'on en est un peu responsable, à la fois que c'est normal que ça arrive et que. Alors, ce qui est vrai, c'est normal, mais quand c'est très fréquent, il y a aussi un peu une espèce oui, de négligence médicale, de dire oui, bon, il y a des femmes pour qui c'est très fréquent, point final, c'est pas grave après tout. Et donc, oui, d'essayer un peu d'aller creuser entre les différentes normes et en même temps, toujours de la même façon, le ressenti du corps et c'est où est-ce que ça peut évoquer à lui, à la narratrice, comme quel sens on peut donner en fait à ce type de micro-événements qui se produisent en fait très fréquemment dans les corps.
Est-ce que je peux considérer que ce livre est un livre féministe sans qu'il soit militant?
Oui, je pense que c'est un livre féministe au sens où, en fait, dans l'idéal, ça n'en serait pas un, dans un monde idéal, mais je crois que déjà, le simple fait qu'il soit écrit par une femme qui parle du corps d'une femme, c'est déjà suffisant pour être féministe, ce qui est un peu terrible parce que ça devrait pouvoir être normal, mais bon. Et puis, effectivement, il y a plusieurs endroits où les thèmes sont quand même étudié sous un prisme féminisme, je pense au chapitre où le corps marche dans la rue et ressent de la peur. Je pense effectivement à plusieurs chapitres sur la sexualité qui sont aussi par les normes qu'ils mettent en avant, etc., qui sont oui, qui s'inscrivent dans une pensée féministe.
Sophie, nous arrivons au terme de notre discussion. Il vous reste les mots de la fin.
Les mots de la fin, ben, merci pour cette discussion, qui était vraiment, vraiment intéressante. Et puis j'espère que le livre rencontrera quelques lecteurs, lectrices par son biais. Ça me ferait plaisir.
Je rappelle le titre de votre livre, publié par les éditions d'Équateur, Les Équateurs, pardon, Faire au cœur. Sa date de parution est le 10 avril 2024, donc il est vraiment tout neuf. Merci encore Sophie et à bientôt.
Merci à vous, à bientôt. Thank you.